Nous allons poursuivre la série que nous avons entamée depuis quelques mois, où nous survolons le livre de Marc. Dimanche dernier, c'était encore Charlie qui nous prêchait sur les chapitres 4 et 5. Et pour ma part, je vais continuer et donc aborder le chapitre 6, en tout cas une bonne partie du chapitre 6. Est-ce que l'un de vous se rappelle, je pense que ça a été dit plusieurs fois, comment est-ce qu'on peut simplifier au maximum le plan de l'évangile de Marc ? Deux parties. Toute la première partie jusqu'au chapitre 8, le but de Marc, c'est de nous présenter qui est Jésus. Il est le roi. Et à partir de ce chapitre et jusqu'à la fin, il va nous démontrer pourquoi est-ce qu'il est venu pour la croix. Qui est Jésus, le roi, pourquoi est-il venu pour la croix? Et donc nous, on va continuer, nous sommes dans cette première partie où nous allons voir que Jésus encore révèle quelque chose de lui, de qui il est et dans quel monde il évoluait et dans quel monde ses disciples vont évoluer et dans quel monde ils vont devoir accomplir leur mission. Et le texte de ce matin, donc au début du chapitre 6, finalement est un petit peu compliqué. Vous savez, en général, il suffit de suivre l'ordre du texte, mais quand on le regarde là de prime abord, on a l'impression que Marc, en tout cas si c'était son année de bac de littérature, il n'aurait peut-être pas eu tous les points. Parce qu'il commence à nous parler d'une situation qui est celle où Jésus se fait rejeter dans son village natal, Nazareth. Puis, de là, il parle de Jésus qui envoie ses disciples, en particulier les 12 apôtres, en mission. Et puis, au lieu de nous raconter la mission et leur retour, il va nous parler de ce qui s'est passé quelques mois avant pour Jean-Baptiste. Et puis, il va revenir sur la conclusion du retour de ses apôtres. Et donc, le but pour moi, enfin, la question que je me suis posée dans ma préparation, c'était quelle est l'idée conductrice de Marc ? Pourquoi, alors que Jean-Baptiste a été arrêté et mis en prison et décédé, tué, assassiné depuis plusieurs mois minimum, pourquoi parle-t-il de cela maintenant, alors qu'on est en train de parler de Jésus qui envoie ses apôtres en mission ? Ça n'a rien à voir. Pourquoi fait-il ce hors-sujet ? Pourquoi change-t-il de sujet pour revenir ? Pourquoi est-ce qu'il intercale ce récit-là au milieu ? Et on va essayer ensemble de comprendre pourquoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que nous allons lire le texte ensemble, par morceaux, et nous allons d'abord regarder la situation initiale de Jésus qui se fait rejeter dans son village de Nazareth. Et puis, nous nous attarderons sur la mission, l'envoi en mission des apôtres et leur retour. Et puis enfin, nous remonterons un petit peu en arrière dans le texte et nous verrons ce qu'il y avait là au milieu de cette mission, ce récit par rapport à Jean-Baptiste, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il nous a été donné là. Donc nous allons aller du verset 1 du chapitre 6 jusqu'au verset 32. Mais pour le moment, je lis donc du verset 1 au début du verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et ils disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? Le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus, après avoir accompli plusieurs miracles et été en vadrouille missionnaire avec ses apôtres, décide de repasser par son village natal une dernière fois avant de se diriger vers Jérusalem, où il sait qu'il doit finir sa mission et où il sera crucifié. Jésus, pour une dernière fois, veut passer du temps chez les siens et il prend cette fois-ci ses disciples avec lui. Il passe quelques jours, probablement avec sa famille, il recroise des amis d'enfance, il voit le voisin chez qui il avait l'habitude peut-être d'aller prendre le goûter quand il était petit. Et puis, le jour de sabbat arrive, le samedi. Et c'est le moment où, traditionnellement, tout le village se rassemble et où on va écouter la lecture et la prédication dans la synagogue. Et bien entendu, sa réputation l'a précédé. Tous les miracles qu'il a faits précédemment, les gens veulent savoir, veulent entendre. Et donc, Jésus est à la synagogue et bien sûr, on lui laisse la parole et il enseigne. Nous avions vu déjà ça au début de l'évangile selon Marc, quand Jésus enseigne à Capernaum. Et où on voit qu'il y a des manifestations extraordinaires. Les gens se mettent à genoux devant lui, sont frappés, troublés par ce que Jésus enseigne. Ils reconnaissent leurs péchés, il y a des manifestations démoniaques. Jésus prend autorité. Et les gens le suivent. Et c'est un grand succès pour Jésus. Et là, Jésus et les disciples se disent « Ouh là là, on va avoir la même chose probablement. » Et puis Jésus enseigne. Et alors qu'il y a foule, eh ben, la réaction, elle n'est franchement pas celle qu'il y avait à Capernaum. Les gens réagissent très différemment et Jésus, lui, le comprend comme étant du dénigrement, comme étant du rejet, comme étant du mépris. Ils l'ont vu jouer dans les rues, effectivement, quand il était gamin. Ils l'ont vu, le jeune petit charpentier, travailler avec papa sur les toits. Ils l'ont vu assister aux cours où on enseignait dans la synagogue les enfants. Et bon nombre d'entre eux qui sont présents ont dû l'enseigner. C'était un petit gars comme d'autres, bien gentil. On a entendu qu'il fait des trucs de fou dans les alentours. Et on voit, hein, ils ne contestent pas son enseignement. Ils ne remettent pas non plus en cause les miracles qu'il a faits. Ils voudraient même en voir plus, mais Jésus n'en fait pas. Il est même pour eux une occasion de chute, il nous l'est dit. C'est-à-dire qu'ils vont, au lieu d'être attirés, eh bien, ils vont chuter, ils vont s'éloigner de lui, ils vont vouloir le rejeter. Alors, pourquoi un tel mépris? Pourquoi? Ça ne semble pas évident. Jésus lui-même s'identifie aux prophètes de l'Ancien Temps qui parlaient de lui. Et il dit, mais les prophètes ont été rejetés parce qu'il parlait de moi. Moi aussi, je suis maintenant rejeté. Il n'est pas étonné par ça. Mais pourquoi est-il rejeté? Précisément, je crois, parce qu'il vient de chez eux. Mais franchement, le petit Jésus, le fils de Marie, le frère de un tel et un tel, et il y a ses sœurs qui sont encore là. Ça ne peut pas être lui. Certes, il a fait des choses, mais ce n'est pas lui. Enfin, franchement, soyons sérieux, 5 minutes, s'il vous plaît. Et puis, comme on dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Bien sûr que non. Alors, il le rejette. Nous avons affaire à de la malhonnêteté spirituelle. Et quelque part, pour illustrer ça, je trouve que la malhonnêteté spirituelle s'identifie beaucoup, ressemble beaucoup à la malhonnêteté intellectuelle. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé, ce dont je vais vous parler, mais je reconnais que malheureusement, c'est souvent le cas. Il y a parfois des personnes que j'ai pu fréquenter, et je me souviens quand j'étais à l'école notamment, dont le comportement m'insupportait. Vous savez, ces personnes où elles n'ont rien besoin de faire, mais on les voit simplement rentrer dans la pièce, on en a déjà marre. Ça vous est déjà arrivé ? Merci. Mon cœur n'est pas le seul qui est tortueux à ce point. Et je le dis mal. Tout de suite, je juge. Et tout ce qu'elle va dire, cette personne, absolument tout, je le sais, ça sera n'importe quoi. Et elle pourrait dire ce qu'elle veut, de toute façon, j'ai décidé de ne pas l'écouter, que ça serait n'importe quoi. Et on le voit, par exemple, ce phénomène-là en politique. Vous savez, s'il y a une bonne proposition qui est faite, mais par le camp d'en face, eh ben, on va quand même dire que c'était n'importe quoi parce que ça vient du camp d'en face. Parce qu'on a décidé que tout ce qui venait de cette personne, de ce groupe-là, eh bien, ce n'était pas bon. C'est de la mauvaise foi, c'est de la malhonnêteté. On ne veut pas reconnaître parce qu'on a décidé de rejeter. Eh bien, Jésus a vécu ça. Il aurait pu dire n'importe quoi. Il aurait pu faire n'importe quel autre miracle. Les gens en face de lui, parce qu'ils le connaissaient, le rejetaient. Leur avis sur lui était fait avant même qu'il prenne la parole. Et ce texte qui est si sobre, finalement, nous révèle quelque chose de terrible, je trouve. Ils auraient dû, normalement, être les premiers à se tourner vers lui. Et je parie que les disciples, quand ils étaient présents et que Jésus allait prendre la parole avec tout ce qu'ils avaient vu auprès de Jésus, s'attendaient à ce qu'il y ait encore le groupe des disciples qui augmente à fond. Parce que chez eux, alors qu'il était moins connu, là, il s'était passé des trucs de fou. Et donc, Jésus va enseigner. Et là, eux, ils l'ont vu depuis qu'il était petit. Ils ont bien dû voir que c'était un enfant qui avait un comportement différent des autres. Pas simplement un bon gars, mais un enfant qui respectait toute la loi de Dieu. Un enfant modèle qui montrait même l'exemple aux grands. Bien plus, ils avaient le témoignage de Marie. Le témoignage de Joseph, sans parler de Zacharie, d'Élisabeth, l'oncle et la tante, les parents de Jean-Baptiste. On le savait à Nazareth, on le savait que ce Jésus avait été annoncé et que même sa naissance était quelque chose de particulier. Et donc maintenant, en plus, on entend qu'il fait des miracles. Mais ce serait tout normal de le suivre. Mais non, il le rejette. C'est incompréhensible. C'est scandaleux. Jésus en est triste. Il le rejette. L'évangile, selon Jean, rappelle cela, et je trouve que c'est valable pour Israël. Mais qu'est-ce que c'est parlant pour ce peuple, enfin, les gens de son village, les Nazaréens ? Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Un peu plus loin, au chapitre 3, Jean, toujours lui, dit, et c'est Jésus qui parle, « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ils avaient décidé en leur cœur de ne pas connaître Jésus, de ne pas le reconnaître. Et Jésus ne put faire de miracle. Parfois, ce texte est utilisé, cette phrase, quand on dit que Jésus ne put faire de miracle, est utilisé par certains chrétiens pour dire « si tu ne vois pas de miracle dans ta vie, eh bien c'est parce que tu ne crois pas assez, ta foi n'est pas assez grande ». Il faut que tu croies plus et tu verras plus de miracles. Regardons bien le texte. Relisez le verset 5. Il ne put pas faire de miracle sauf faire quelques miracles. On se demande, on dit Marc, là, il y a un problème. Il a fait des miracles ou pas? Oui, il en a fait, mais il n'a pas pu en faire comme il aurait voulu en faire, on dirait. Il y a eu des miracles, les gens y croyaient, voulaient en voir, mais Jésus n'en fait pas. La question qu'il y a derrière, c'est est-ce que la puissance de Jésus, sa capacité à faire des miracles, doit être nourrie par notre foi? Est-ce que si je ne crois pas, il n'est pas capable de faire un miracle? Bien évidemment, non. Et quand on reste dans le contexte juste de Marc, si on veut interpréter ce texte juste au regard de ce qu'on a autour dans l'évangile de Marc, tous les chapitres qui précèdent nous montrent tout à fait l'inverse. Est-ce que les démons voulaient que Jésus leur fasse un miracle dans leur vie? Absolument pas, mais Jésus l'a fait. Jésus fait des miracles quand et comme il veut, à qui il veut. Alors pourquoi point de phénomène surnaturel à Nazareth? On le regarde quand on voit ce texte, au regard de tout ce qu'on a avant, et en particulier de ce que Charlie a exposé la semaine dernière et les chapitres 4 et 5, et aussi dans le chapitre 3. Le but de Jésus en faisant des miracles est de susciter la foi et de convaincre, de manifester qui il est. Ici, le problème n'est pas qu'on a affaire à des personnes qui ont une foi vacillante et qui ont besoin d'être encouragées, ou face à des personnes qui ont besoin d'être convaincues. Nous sommes face à des gens qui ne veulent pas croire, qui ont décidé de rejeter Jésus avant même qu'il n'ouvre la bouche. Leurs présupposés sur lui les empêchent de venir. Et leur incrédulité, finalement, n'est que l'expression, non pas qu'ils sont perdus, qu'ils sont en proie au doute, mais qu'ils sont en rébellion, parce que eux particulièrement ont eu plus de preuves, plus de témoignages que n'importe qui d'autre. Et l'étonnement de Jésus là n'est pas un étonnement de découverte, mais une consternation face à leur malhonnêteté spirituelle. Il a en face de lui ses amis d'enfance, ses voisins, des membres de sa famille, et ils ne veulent pas. Alors que fait Jésus? Eh bien, il s'en va et il ne fait plus de miracle. Il s'en va. Simplement, de ce texte, il y a une implication et un enseignement pour nous, et je veux vraiment qu'on se le rappelle avec amour. Comprenez-moi bien. Avec amour, mes intentions ne sont vraiment pas mauvaise et je ne veux faire de mal à personne. Mais je crois que ce texte est d'une sévérité et d'une mise en garde pour nous, l'Église, aujourd'hui. Et je ne veux pointer et je ne pense à personne du doigt. Je ne pointe personne du doigt. Mais nous avons des personnes dans ce texte qui pensent connaître Jésus, mais qui ne veulent pas le reconnaître pour qui il est. Des personnes qui ont eu un témoignage long, nourri, fourni de qui est Christ et qui ne veulent pas s'engager pour lui. Combien parmi nous dans l'Église fréquentent cette communauté et ont reçu témoignage après témoignage, enseignement après enseignement, depuis tant d'années, ont vu des vies transformées, ont reçu des chants, mais qui finalement ne veulent pas reconnaître Christ. On connaît des choses sur lui. Tous ici présents, nous connaissons plein de choses sur Jésus, sur la Bible. Peut-être certains d'entre vous ont été enseignés depuis leur plus tendre enfance. Mais pour autant, je sais que certains d'entre nous sont dans cette situation. Mais ce texte est un avertissement. Regardez, Jésus n'a pas essayé encore et encore de les convaincre et de faire plein de miracles pour que du coup, ils décident enfin de croire en lui. Non, il est parti. Il est parti. Est-ce qu'on se dit peut-être que Dieu, de toute façon, est gentil, il sait, moi j'ai prévu, un jour, je pense, je me tournerai vers lui. Je sais que je dois me repentir, mais ça sera plus tard. Mais là, il faut le dire, c'est une grave erreur. La repentance n'est pas une promesse pour demain dans nos vies. Dieu ne promet à personne qu'un jour il pourra se repentir. Dieu nous fait le cadeau de la repentance aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on doit se repentir et décider de continuer sa vie comme on veut, en disant un jour peut-être quand il aura fait tel et tel miracle pour moi, ou qu'il m'aura accordé telle et telle chose, là je ferai un pas de plus. C'est de la folie. Alors, de grâce, n'attendez pas. Ne le laissez pas partir. Et c'est dans ce contexte, je reviens au texte maintenant, que Jésus, dans ce contexte de rejet, d'indifférence, imaginez les apôtres qui sortent de la synagogue avec Jésus, en disant, je ne sais pas si vous avez assisté des fois à des concerts d'évangélisation, ou vous savez, des églises qui organisent des événements, on a à cœur d'inviter des non-chrétiens et de les voir entendre le message de l'évangile, et puis on a l'impression que c'est l'indifférence totale, comme on se sent penaud. Quand on a organisé ça, et bien là, ils sont un petit peu ça, à côté de Jésus, et Jésus part, et il leur dit, « Maintenant, les amis, je vais vous envoyer. » Il parcourait les villages d'alentour en enseignant, verset 6. Alors il appela les 12 et se mit à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne revêtez pas de tunique. Deux tuniques, hein, le nombre, hein, pour ceux qui n'ont pas de texte. Hein. Il leur disait, dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons, oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. C'est donc dans ce contexte qu'ils sont envoyés et nous voyons là, pour eux, de la réussite. Beaucoup de réussite même. Jésus, au chapitre 2, nous l'avions vu, en a sélectionné 12 parmi tous ses disciples. 12 pour qu'ils deviennent ses apôtres, 12 hommes à qui il allait confier quelque chose de bien particulier, une mission unique. Et nous lisons donc au chapitre 2, il en établit 12 pour les avoir avec lui, verset 15, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais ils ne l'ont pas fait tout de suite. D'abord, ils sont restés auprès de Jésus et ils ont pu expérimenter comment Jésus s'y prenaient. Ils ont été enseignés par son modèle et c'est quand Jésus arrive à un échec et que ça fait flop qu'il leur dit, ben maintenant c'est à vous. On dit, sympa. Mais ils sont envoyés pour reproduire ce que Jésus a fait. Et c'est la particularité des apôtres. Ils vont reproduire à l'identique le ministère de Jésus. Prêcher la repentance comme Jésus. Chasser des démons comme Jésus, devoir être reçu par les gens comme Jésus devait être reçu en tant que roi. Et c'est pour cela, alors que Jésus est en direction de Jérusalem, que le royaume doit être annoncé, que le roi vient et que le roi va aller sur son trône, mais sur la croix, son trône qui est sur la croix, qu'il va aller régner, que ses ambassadeurs, ces 12-là, doivent être reçus comme des hauts dignitaires. Et quand on reçoit un ambassadeur, eh ben on doit lui témoigner du respect, on doit lui témoigner une hospitalité parce qu'il représente le roi. Et si le roi vient chez toi, eh ben tu ne lui demandes pas de payer, tu ne lui demandes pas d'amener une salade ou tu ne lui demandes pas de penser au dessert. Tu lui présentes tout ce que tu as de meilleur. Et donc c'est dans ce cadre-là que les apôtres sont envoyés. Alors, la question aussi de ce texte, et finalement j'étais embêté parce que ce texte soulève plusieurs questions qui peuvent faire polémique. Devons-nous comprendre que le mandat missionnaire de l'Église est identique, que cet exemple-là est la norme pour nous, c'est-à-dire que nous devons partir en mission sans rien prévoir et que nous devons s'attendre au même ministère que les apôtres. Il y a dans l'histoire eu des mouvements extraordinaires, et je pense en particulier aux frères Moraves dans les temps qui entouraient la Réforme. Les frères Moraves, eux, partaient en tirant au dé presque la destination. Et ils disaient, Seigneur, on sait qu'on doit partir, mais on veut se soumettre à toi. Et hop, peut-être ils faisaient tourner un globe, ils mettaient le doigt dessus, et hop, c'est là que tu vas partir. Et donc les gars partaient sans rien. Et c'est comme ça que certains se sont retrouvés à partir pour aller évangéliser en Alaska, dans une barque, depuis l'Europe. Ils sont morts, malheureusement. Mais parce qu'ils voulaient vivre ça, ne prendre ni bâton, ni provision, ni rien. Déjà, le fait qu'ils aient pris une barque, c'était déjà presque de la désobéissance. Parce que... Non, bref, ouais. Enfin... Pardon, loin de moi de me moquer d'eux, c'était des personnes qui ont fait avancer la mission de façon extraordinaire. Mais dans leur zèle, ils ont fait d'un texte un exemple, la norme. Et s'ils avaient regardé ce que l'ensemble des Écritures dit sur la mission, et même d'autres missions que Jésus a données, où les conditions n'étaient plus les mêmes. Ou même l'exemple de Paul, qui lui avait des plans, des stratégies, qui levait des fonds, qui s'assurait d'avoir des provisions, etc., etc. Il y avait un contexte bien particulier à ce moment-là, c'était que le roi se rendait à Jérusalem et les ambassadeurs devaient le précéder pour annoncer le roi et donc être reçus comme tel. Il y a donc des différences entre la mission des apôtres et la nôtre, mais aussi des points communs. Exemple de différence, cette courte mission n'est pas une norme. C'est un contexte bien particulier, je l'ai dit. Nous ne sommes pas des apôtres. Il y en a eu 12 d'apôtres, et il y a eu Paul nommé apôtre. Le mandat missionnaire des apôtres n'est pas notre mandat à nous. Notre mandat missionnaire découle de celui des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres, eux, avaient une autorité particulière qui leur a été déléguée par Jésus, dont le but était de les légitimer auprès de l'Église qui allait naître pour poser les fondements, les légitimer pour écrire et les équiper pour pouvoir écrire le Nouveau Testament pour qu'il soit la norme infaillible et perpétuelle pour notre foi et pour la vie d'Église. Et leur capacité à faire le même ministère que Jésus, à opérer les mêmes miracles comme Jésus, est une preuve pour tous les âges que c'est leur enseignement qui doit faire autorité et pas le mien si un jour je me décide à écrire de nouveau un livre et je vais dire « Voici l'Évangile selon Raphaël ». Cette semaine encore, quelqu'un est venu me voir en me disant « Ouais, il paraît que dans l'Église, on entend régulièrement que vous ne croyez plus aux dons miraculeux. Alors dis-moi, est-ce que vous croyez que Dieu fait des miracles encore ?» Alors je lui dis « Écoute, je te dis clairement, si on ne croit plus aux dons miraculeux, si on ne croit plus aux miracles, c'est que nous sommes des libéraux, c'est-à-dire que nous avons une conception intellectuelle de la foi et pas spirituelle, fuis notre Église. Fuis-la, nous ne sommes plus fidèles à la Bible. Les évangéliques croient aux miracles. Bien entendu, nous croyons que Dieu peut faire des miracles et nous croyons que nous pouvons lui demander de les faire. Mais nous croyons aussi qu'il a confié aux apôtres un ministère qui n'est pas le nôtre, une autorité qui n'est pas la nôtre. Vous comprenez la différence? Elle est simplement là, pas besoin de compliquer. Dieu peut faire des miracles, mais nous ne croyons pas que nous pouvons nous arroger aujourd'hui la même autorité que celle des apôtres. Enfin, il y a des points communs, beaucoup de points communs, avec ce que faisaient les apôtres. Nous annonçons le même message qu'eux, à savoir celui de la repentance et de la foi en Jésus pour être sauvés. Et si les circonstances étaient uniques dans ce cadre-là, les principes demeurent les mêmes. Ce sont les principes de l'engagement et du service pour l'Évangile, mais en le vivant dans la foi et dans la dépendance, dans la confiance en la providence de Dieu, non pas en nos provisions, en notre sagesse et en nos capacités, mais une dépendance totale envers Dieu. Et notre compréhension de Christ, comme celle des apôtres, est faite pour se développer dans une mise en pratique de la foi, dans une mise au service, aussi en équipe comme on le voit là, et nous pourrions les tirer à l'équipe de l'Église, à servir en tant qu'Église. Nous aussi, comme les apôtres, nous devons nous soumettre au commandement de Jésus et lui faire confiance et ne pas regarder simplement aux circonstances qui pourraient paraître négatives. Et je lis rapidement le verset 30-32. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus. C'est le retour de la mission. Et ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Quand ils sont revenus à Jésus, il y avait une foule qui les suivait et qui voulait encore suivre et qui voulait encore écouter. Et ce que fait Jésus face à ce succès-là, c'est qu'il les prend et il leur dit « Ok, je vous ai envoyé au charbon, mais maintenant je vais vous prendre, il faut que vous vous reposiez. » Et il les met à l'écart et il désire les écouter, les restaurer. Il veut entendre ce qu'ils ont vécu, les joies, les difficultés, mais Jésus montre là un modèle d'accompagnement où il n'est pas celui simplement qui dit ce qu'il faut faire, mais celui qui accueille, reçoit et restaure. J'ai mis beaucoup de temps, moi personnellement, à comprendre que la vie au service de Christ n'était pas que de l'activisme, mais que ce que Christ voulait, c'était certes que je le serve, mais aussi que je sache me reposer et faire le point avec lui et me ressourcer, jusqu'à ce que j'ai mieux compris la vie de Christ. Et on le voit en particulier dans l'évangile de Marc, où il y a des contrastes. Activité intense, repos. Activité, repos. Et Jésus lui-même nourrissait cette intimité avec Dieu et a appris à ses disciples à faire ça. Et effectivement, quand on vit une vie pour Christ, à fond les ballons, quand on veut écouter les gens avec des oreilles spirituelles, pour pouvoir parler à leur cœur, quand on prodigue des conseils, quand on essaye de résister aux pressions éthiques, morales, quand on veut défendre la vérité, quand on veut avoir un comportement qui honore Dieu au quotidien, ça nous use spirituellement. On débourse énormément d'énergie et on a besoin d'aller se reposer et de se mettre à l'écoute, et de parler à notre Dieu. Je saute pour conclure maintenant et revenir sur ce qui se passe avec Jean-Baptiste et Hérode, et nous allons comprendre pourquoi Marc a voulu intercaler ces deux textes. Verset 14. Le roi Hérode apprit le grand succès de la mission. En effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait « Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts !» Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient « C'est Élie !» et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes !» Mais Hérode, apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est revenu. » Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. En effet, Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Là, ce n'était pas une lubie de Jean-Baptiste, hein, il cite le Lévitique 18. Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait quand il avait entendu, il était très perplexe, pourtant il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade, donc sa nièce, entra et dansa. Elle plut à Hérode et ses convives. Vous remarquerez l'immense sobriété. Le roi dit à la jeune fille, « Donne-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Ce que tu me donneras, je te donnerai. Quand même, ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et le dit à sa mère, « Que demanderai-je » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui demander, « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer de refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Je résume la situation. Hérode était un homme qui aimait écouter Jean-Baptiste, mais dont le message le dérangeait aussi, puisque Hérode vivait contrairement à la loi de Dieu, en se mariant avec la femme de son frère. Alors Hérode l'a fait emprisonner, mais apparemment, Hérode aimait quand même écouter Jean-Baptiste, donc peut-être qu'il le convoquait régulièrement et qu'il voulait écouter Jean-Baptiste, et il avait une certaine admiration pour cet homme, pour son intégrité, sa justice, sa sainteté. Et son message lui plaisait, mais pour autant, lui voulait continuer à être avec sa belle-sœur. Et puis un jour, ivre mort, pour son anniversaire, sa nièce arrive, elle danse, l'excite, et il lui fait cette promesse totalement folle qui nous rappelle Jephté. Il y a quelques semaines, j'avais enseigné sur Jephté qui fait un vœu totalement stupide. Et lui promet la moitié de son royaume. Mais Hérode n'a pas de royaume. Hérode était sous la gouvernance romaine et c'est un administrateur. Il n'a pas de royaume. Il lui fait une promesse qui n'a ni queue ni tête. Ses pouvoirs étaient très limités. Mais il lui dit, voilà, je vais t'offrir tout ça tant que je pourrai t'avoir dans mon lit. C'est un petit peu ça l'idée. Et alors là, et ben, le complot tombe et c'est ça a la tête de Jean-Baptiste qui doit venir. Et malgré ses regrets, pour sauver sa face, eh ben, il le fait décapiter. Chose tragique. Alors, quels enseignements tirer de la part d'Hérode? Certes, il n'est pas avec la même attitude que les gens de Nazareth. Et de prime abord, on pourrait se dire qu'entre les gens de Nazareth et Hérode, c'est différent. Oui, les symptômes sont différents, mais la cause est la même. Lui, il se sent interpellé par le message et d'une certaine manière, il comprend, il reconnaît qu'il ne vit pas dans la volonté de Dieu. Mais voici le problème d'Hérode. Bien qu'il croie et qu'il trouve le message bon et juste, il ne veut pas renoncer à sa vie dans le péché. Parce que ce que fait Jean-Baptiste, c'est de pointer le péché et l'appeler à la repentance. Et il pense pouvoir rester dans cette zone grise, et c'est ce qu'il fait pendant un temps où il se dit « Je vis un pied dans mon royaume et un pied dans le royaume de Dieu. » Et de temps en temps, je viens écouter Jean-Baptiste et ce qu'il me dit « Ah, ça me fait du bien, ça me réconforte. » C'est un homme tellement cool, mais en même temps, lui continue de vivre sa vie dans le péché. Et il est dans cette dichotomie. Mais regardez la suite du parcours de Hérode, et ça va nous vacciner. Je lis en Luc 23, à partir du verset 8, quand Jésus vient de se faire juger déjà par Pilate et qu'il est amené devant Hérode. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il y eut une grande joie. Ah tiens, comme avec Jean-Baptiste. car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Super, il y a Jésus, allez, on va faire venir du vin, on va faire venir un banquier et il va peut-être nous faire des trucs cool. Il l'interrogea assez longuement, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit blanc, c'est-à-dire un habit blanc, tout blanc, éclatant, blanc, il le renvoya à Pilate. Il se moque de lui. Il l'habille en blanc et l'oblige à retraverser tout Jérusalem, où la foule lui crache dessus, lui met des coups. Tiens, un vêtement blanc, celui de la royauté, celui de l'honneur. Même comportement, finalement, qu'avec Jean-Baptiste, mais bien pire. Il a déraillé complètement, maintenant il méprise. Et regardez un petit peu plus loin, en Actes chapitre 12, après avoir résolu un conflit entre deux villes qui se faisaient une guéguerre commerciale, au jour fixé, chapitre 12, verset 21 du livre des Actes, au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, alors je pense qu'on a ce détail-là pour faire un contraste avec ce qu'il voulait faire à Jésus avec les habits, enfin bref, s'assit à sa tribune et les harangua, la foule. Le peuple s'écria, « Voix d'un dieu et non d'un homme !» Voilà, Hérode, lui, est arrivé, on le prend pour un dieu. Il est au sommet de sa gloire. « Voix d'un dieu et non d'un homme, à l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par des vers, il expira. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait. » C'est au moment où il est arrivé au comble de son rejet, où le péché a grandi en lui jusqu'à arriver à vouloir se mettre, à mépriser non seulement Dieu le Fils qui vient, alors qu'il était devant son roi, à se moquer de lui et faire une parodie d'un roi, et où lui-même, après se croit lui-même roi et se met devant, que Dieu le frappe soudainement et qu'il est rongé de vers. Et une mort pas anodine, parce qu'être rongé de vers comme ça, c'est une mort extraordinaire qui était une annonce, une préfiguration du jugement de l'enfer. C'est une mort très particulière qui est là pour rappeler à tout le monde, lui qui a voulu se prendre pour Dieu, maintenant il est en enfer. Je conclue là-dessus. La vie d'Hérode nous apprend que le péché n'est pas une rébellion statique, n'est pas un état statique. Le péché est une dynamique en nous. La compromission, vouloir en même temps de Dieu dire qu'on croit en Jésus et en même temps vouloir vivre sa vie comme on veut et ne pas vouloir que Jésus ait quelque chose à dire sur notre péché, nous mène à la mort. Dieu a donné des occasions aux Nazaréens et à Hérode de se repentir. Et ils ne l'ont pas fait. Et ça se termine mal pour eux. Dans ce texte, nous avons un entremêlement de deux récits. La mission et le succès des apôtres, et de l'autre, le rejet de Jésus et le meurtre de Jean-Baptiste, qui sont entremêlés. Et nous pouvons constater ceci, c'est que Christ, qui se présente dans ces 8 premiers chapitres, qui il est le roi. Le roi qui est en mission et qui envoie son armée, on pourrait dire, qui envoie ses apôtres, malgré le rejet, malgré la peur et l'opposition que pourrait susciter le meurtre de Jean-Baptiste. Il les envoie et ils peuvent lui faire confiance. Et par rapport à la foi, ça nous dresse le portrait de ce contexte de mission. Tant qu'on ne se rapproche pas de Dieu, tant qu'on ne se rapproche pas de Dieu, on s'en éloigne. Tant qu'on ne se rapproche pas de Dieu, on s'en éloigne.